Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Feels like I'm the only one who's coming undone, and I just can't seem to shake it. But there's something in my heart pulling the lies apart from the truth of what your love is. It isn't contingent. To imagine why you would give up your life for a mess that is in progress, and I can't even fathom why you never leave my side. I guess that's what your love is. It isn't contingent.
comprendre nos torts et puis se taire. Le désir encore pour l'hiver, un chaos d'efforts sur Saint-Hilaire. On s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'on se pose sur nos lauriers mayas. I need you so. I won't let you go. I need you so. I won't let you go. Le temps que l'eau se pose sur nos ronces lilas.
Julien Doreuil, Paris-Séchelles sur Phare FM, il est 4h07, la radio Autrement avec vous dans la nuit Autrement. On est encore ensemble pendant une petite heure. Votre programme, un moment de réflexion avec Patrice Martorano dans Pain de vie, et puis Hommes et Femmes, mode d'emploi et de la musique. On écoute Sophika Hill Sophie. Merci de rester avec Phare FM, je vous souhaite un beau réveil, une excellente journée ce jeudi 31 juillet.
Minuit 5 heures.
La nuit autrement.
Avec Mireille.
I wish a little thought I'd have to prove myself. I was so scared of rejection, so I chose punishment. Now I'm 22, I know it makes no sense. Friendships make me worry when they are closely held. Something stupid, so I apologize. Oh gosh, I love you so. Promise I'll try my best. Just so you don't worry, I got a place in therapy. So
maintenant votre message Pain de vie avec le pasteur Patrice Martorano.
On est dans la joie d'être ensemble. C'est une bénédiction de savoir que, est-ce que vous avez conscience que Dieu nous a choisis pour le louer et l'adorer? Est-ce que vous avez conscience de ça? C'est quelque chose de fou quand on y pense. La Bible nous parle que nous sommes prédestinés. Ça veut dire avant même que vous soyez né, avant même que votre mère, que vous ayez été tissé dans le sein de votre mère, la Bible nous dit que nous avons été prédestinés, que Dieu nous connaissait déjà et qu'il nous avait choisis pour être des adorateurs pour la gloire de son nom. Juste ça, c'est quelque chose qui nous invite à le louer et l'adorer. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui réalisent ça et qui aiment louer, adorer Dieu? Alors, est-ce qu'on peut applaudir encore une dernière fois le roi des rois? Et j'aimerais vous parler ce matin du choix de Dieu. C'est le titre de mon message, le choix de Dieu. C'est juste bon de savoir que même si nous ne sommes pas le choix de certains hommes, et ça nous arrive des moments, il y a des gens, ils auraient pas parié sur nous. Il y a quelques temps en arrière, il y a eu les élections présidentielles. Je pense pas, peut-être ma maman et mon épouse, peut-être mes enfants et encore, je sais pas. Mais il y a pas grand monde qui aurait voté pour moi. Et peut-être pour vous aussi. Et les hommes auraient pas misé grand chose sur nous. Mais c'est bon de savoir que Dieu, lui, nous a choisis. C'est pas un homme qui nous a choisis, c'est Dieu qui nous a choisis. Et quand Dieu nous a choisis, peu importe ce que les gens pensent, le choix de Dieu est immuable, irrévocable. Il n'y a que nous, par une mauvaise attitude, qui pouvons nous en éloigner, mais le choix de Dieu est quelque chose de scellé. Il y a cette histoire magnifique dans la Bible, une histoire que j'aime tellement, j'aimerais juste vous la montrer sous un angle un peu différent en guise d'introduction. À un moment donné, la Bible nous dit qu'il y a un homme, un couple, Rebecca et Isaac, et Dieu vient les voir parce qu'ils attendent un enfant, ils aimeraient avoir un enfant, ils en ont pas, et là, Dieu vient parler à Rebecca, et il dit à Rebecca, il va y avoir dans ton sein, il y a en ton sein, il va y avoir des jumeaux. Et la chose pas commune, ça remonte à pratiquement 3000 ans en arrière, généralement l'aîné, c'était lui qui devenait le chef. L'aîné, c'était lui qui avait la plus grosse portion de l'héritage. L'aîné bénéficiait quasiment de tous les privilèges par rapport au cadet, au troisième, au quatrième, etc. Et là, Dieu dit à Rebecca, il dit à la maman, il y en a deux, il y a un aîné, il y a un cadet, des jumeaux, mais le cadet, c'est le choix de Dieu, le cadet va être celui qui va dominer sur son frère. Le cadet, c'est celui que j'ai choisi pour continuer la lignée, pour continuer la bénédiction. Et là, lorsque les enfants naissent, effectivement, ils sont deux. Il y a un aîné qui s'appelle Ésaü et un cadet qui s'appelle Jacob. Et les deux vont grandir. Et puis, le choix du papa, le papa aime beaucoup son fils aîné. Et vraiment, il a un faible pour Ésaü parce que il a ce côté un peu viril. Il aime la chasse, il partage plein de choses avec lui, puis il aime l'amener avec lui. Puis la Bible nous dit qu'il l'aimait. Il l'aimait plus que Jacob. Sauf que le choix de Dieu, c'est pas Ésaü, c'est pas l'aîné. Le choix de Dieu, c'est le cadet. Et là, alors qu'il grandit, Ésaü, à un moment donné, il a un certain mépris pour la bénédiction, un certain mépris pour les choses de Dieu. Et lorsqu'il va revenir d'une chasse, il a extrêmement faim. Et là, il y a son frère qui avait préparé un bon petit plat. Et il dit à son frère, donne-moi le petit plat que t'as préparé. Et son frère lui dit, écoute, non, je te le donne pas, excepté, par contre, je veux bien te l'échanger contre ton droit d'aînesse, contre le droit de la bénédiction, contre la portion qui t'est réservée que moi, j'avais pas le droit. Et là, la Bible nous dit que l'aîné, Ésaü, va considérer cela, va le mépriser littéralement, il ne va même pas le considérer, il va le mépriser, il va mépriser son droit d'aînesse et il va le donner finalement au cadet. Et là, il va manger son plat et quelques temps par la suite, le papa qui est sur le point de mourir, il est rendu aveugle et il sait qu'il reste pas longtemps à vivre, il appelle son fils Ésaü et il veut faire quelque chose de hallucinant. Isaac, même si c'est tout un homme de Dieu, il va vouloir changer le plan de Dieu. Il va vouloir, parce que lui, son cœur, son choix, c'est son fils aîné, c'est pas le cadet. Et il sait que pour Dieu, c'est le cadet, mais lui n'en veut pas du plan de Dieu. Lui, son choix, c'est l'aîné. Alors, il appelle son aîné et il lui dit, écoute, Ésaü, voici ce que tu vas faire. Tu vas aller chasser un animal, tu vas ensuite revenir, tu vas avec ça, tu vas me préparer un bon petit rôti à mes chouilles, tu vas me préparer un bon petit plat à manger, et puis tu me l'apportes et je vais me régaler de ce que tu as fait, et ensuite je vais prier pour toi, pour que tu reçoives la bénédiction, afin que tu puisses dominer sur tous les autres, afin que tu puisses dominer sur ton frère. En d'autres termes, cet homme, Isaac, même si c'est un homme de Dieu, il est en train de vouloir changer ce que Dieu avait choisi. Et là, la maman qui est là, qui entend ce qui se passe, qui est une femme de Dieu incroyable, elle se dit, non, c'est juste pas possible. C'est pas lui qui a été choisi. Celui qui a été choisi, le choix de Dieu, c'était le cadet. Alors elle va appeler son fils cadet, elle va appeler Jacob. Elle va dire à Jacob, écoute, va prendre un animal là, dans l'enclos, il y en a quelques-uns, tu m'en amènes un. Je vais faire un bon petit plat comme ton père les aime. Et ensuite, tu vas aller le voir et tu vas te faire passer pour ton frère. Parce que il a dit à ton frère qu'une fois qu'il avait fini de manger, il va apporter la bénédiction. Et il faut que ce soit toi qui l'aie, la bénédiction. Alors, Jacob est là, oui, mais maman, mon papa, même s'il voit plus, il va quand même reconnaître, mon frère, c'est Ésaü. Ésaü. Ésaü, ça veut dire le poilu, le velu. Vous imaginez un nom comme ça? Et il s'appelle comme ça. Il dit, il a plein de poils. Moi, j'ai pas de poils. Et quand il va me toucher, il va s'apercevoir que je ne suis pas lui. Et sa maman, elle trouve une stratégie. Elle dit, écoute, je vais prendre avec l'animal qu'on va tuer. Je vais prendre sa peau. Je vais te faire un habit. Et quand il va te toucher, vu qu'il voit rien, il va te toucher. Il va sentir des poils et il va croire que t'es Ésaü. Ok, très bien, on fait ça. Et là, d'un seul coup, Jacob arrive. Le plat est prêt. La maman l'a préparé. Et il va voir son papa. Jacob, il va. Et lorsqu'il rentre, le papa est là, qui est-ce? Ben, c'est moi, c'est ton fils. Il se fait passer pour l'aîné. C'est moi, ton fils, Ésaü. Ésaü, mais je reconnais pas ta voix. On dirait la voix de Jacob. Approche-toi. Puis là, il le touche, il sent des poils. Il dit, ah ouais, la voix, c'est celle de Jacob, mais les bras, t'es poilu comme ton frère, ça, c'est toi. Et, ok, très bien, ben, prends le repas, mange. Et là, il se met à manger. Et lorsqu'il finit de manger, il dit, mais non, approche-toi pour que je te bénisse. Et là, alors qu'il commence à prier pour lui, alors, écoutez bien, alors que lui, dans sa tête, il est en train de changer la volonté de Dieu, en train de retourner la situation, c'est-à-dire que dans sa tête, souvenez-vous, le papa ne voit rien, il aveugle. Lui, dans sa tête, il est en train de faire basculer la volonté de Dieu. Il savait que c'était le cadet qui devait être béni. Alors, il va commencer à prier, pensant que c'est l'aîné devant lui. Il va commencer à prier en disant, Seigneur, je prie afin que tu fasses de lui une source de bénédiction et qu'il domine sur son frère. En d'autres termes, alors qu'il pense changer la volonté de Dieu, la réalité, il ne fait que l'appuyer et l'accomplir. Comprenez-vous? Et il y a cette réalité, quand Dieu te choisit, il n'y a personne qui puisse retourner. Même un homme de Dieu comme Isaac, il n'y a personne qui puisse retourner le choix de Dieu. Ce que Dieu déclare, ce que Dieu dit, c'est quelque chose qui s'accomplit dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Alors, quelle que soit ta situation aujourd'hui, même si tu penses que tu n'es pas été choisi comme par ton papa, comme Jacob, ou que tu n'es pas le choix de certaines personnes, j'aimerais t'encourager ce matin et t'exhorter afin que tu réalises que tu es le choix de Dieu et ce que Dieu a choisi que tu accomplisses dans ta vie, personne ne pourra te le voler, excepté si toi-même tu as une mauvaise attitude, mais il n'y a que toi qui peux faire capoter le plan de Dieu. Mais il n'y a aucun homme, même pas un homme de Dieu comme Isaac, ne peut t'empêcher d'accomplir ce que Dieu a prévu pour ta vie. Alors je me suis servi de cette histoire en guise d'introduction, vraiment pour planter le décor et vous faire comprendre cette réalité. Et on va regarder à une autre histoire, on va regarder plusieurs histoires. Et on va regarder à l'histoire de la première famille qui a été créée, Adam et Ève. Et lorsque Adam et Ève, Dieu a créé Adam, ensuite il a créé Ève, et il leur a donné un mandat. Le mandat d'avoir des enfants, le mandat de se multiplier, le mandat de remplir la terre. Et la Bible nous dit que Adam va connaître son épouse Ève et ils vont avoir des enfants. Regardez ce qu'il est dit. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, écoutez bien, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Amen. Premièrement, quand les hommes ne voient rien de bon en vous. Ève fait quelque chose d'assez incroyable, juste pour revenir dans cette histoire. Elle a un fils. Le premier fils qu'elle a, c'est pas des jumeaux, donc elle en a un. Quelque temps après, elle en a un autre. Mais le premier enfant qu'elle a, elle l'appelle Caïn. Et lorsque elle a Caïn, la Bible nous dit qu'elle va s'exclamer. Il va y avoir un chant de réjouissance, de gloire. Elle va dire, Seigneur, c'est avec l'aide de Dieu que j'ai fait cet enfant. Et elle lui donna le nom de Caïn. C'est juste incroyable. Elle ne dit pas, je l'ai fait avec l'aide de mon mari. Non, non, non. Elle zappe son mari. Elle exclut son mari. C'est comme si son mari n'existait pas. En fait, son fils, il vient pas d'un homme. Son fils, il vient de Dieu. Tu sais, des moments, on est là, on regarde nos enfants. Quand vous avez eu vos enfants, là où les premières fois, et puis ça, c'est vraiment un truc de parents. Hein. On a l'impression que c'est, y a pas plus beau, quoi. C'est the most, c'est le top du top. Y a pas mieux que ça. Il est divin, cet enfant. C'est exactement ce qu'elle vit. Elle est là, elle voit son fils Caïn, elle dit, il est tellement incroyable, elle lui donne le nom de Caïn, elle dit, c'est avec l'aide de Dieu que je l'ai fait, waouh. Puis ensuite la Bible nous dit qu'elle a eu un autre enfant, mais la Bible nous dit qu'elle ne dit rien, elle dit rien sur celui-là, c'est un narrateur qui raconte que, et elle a eu un autre enfant qu'elle appela Abel. Comprenez ceci, voici ce que veut dire Caïn et Abel, ça va vous faire comprendre le contexte. Caïn signifie le créateur, l'artiste, celui qui possède. Ce fut pour Ève un moment d'exultation, un véritable cri de triomphe. Waouh ! Elle trouve tellement son enfant incroyable, elle zappe le père, c'est avec Dieu qu'elle l'a fait, et elle trouve tellement son fils incroyable qu'elle lui donne le nom de artiste. Elle lui donne le nom de créateur, elle lui donne le nom de toi sortent les choses. Puis d'un seul coup, elle a un autre enfant, Et lorsqu'elle a un deuxième enfant, voici, écoute, regardez bien le contraste entre les deux. Elle l'appelle Abel. Voici ce que veut dire Abel. Abel veut dire vapeur, buée, vanité, dans le sens d'inutile, d'absurde. Agir d'une façon stérile, devenir vain, être vain, rempli de vains espoirs. En quelque sorte, Abel est en plus de Caïn. Donc, il est vain de donner un sens à son existence. Waouh ! Un drame familial se profile à l'horizon. D'un côté, il y a Caïn, l'artiste, le créateur, celui qu'elle a fait avec l'aide de Dieu, le gamin incroyable, tellement beau, tellement intelligent. Oh, c'est mon choix se porte sur lui. J'en ai même pas besoin d'en avoir un autre. Et un jour, elle tombe enceinte et elle en a un autre, elle l'appelle Abel. Et Abel, contrairement à Caïn, ça veut dire de la vapeur, ça veut dire t'es stérile, ça veut dire que t'es inutile. Il y a même pas d'espérance, de sens à ton existence. C'est rien, tu sers à rien. D'un côté, il y a le top du top et de l'autre côté, c'est toi, t'es de la vapeur. Toi, tu sers à rien. Il n'y a même pas à réfléchir à donner un sens à ton existence tellement que tu ne sers à rien. Est-ce que vous voyez le drame qui se profile à l'horizon ? L'enfant roi contre l'enfant méprisé. L'enfant qu'on a choisi contre l'enfant qu'on n'a pas désiré. Et d'un moment, il y a cette réalité, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de vous sentir un peu comme Abel, où les gens ne voient rien de bon en vous. Ça vous est déjà arrivé que les gens voient rien de bon en vous ? Personne ne voit rien, personne n'aurait parié sur vous, ce que je disais tout à l'heure. Personne ne voit rien d'exceptionnel en toi. J'aimerais vous dire, ce que Dieu a vu en toi, c'est quelque chose d'incroyable. Et même si les hommes ne l'ont pas vu, ce que Dieu a vu, ce que Dieu a projeté, les plans de Dieu sont juste incroyables pour ta vie. Même si les hommes ne le voient pas, ce que Dieu a vu est quelque chose de magnifique et d'incroyable. Moi, je me souviens d'une prof, elle avait parié une bouteille de champagne, c'est quand même quelque chose, hein. Comme quoi je n'aurais pas mon examen. Devant ma mère, elle a fait ça. Tu sais, les trucs, là, parents-professeurs, j'ai avec ma mère et toi, t'es content. Elle me parlait, c'est comme ça. Elle me dit, de toute façon, votre fils, hein, moi, je parie une bouteille de champagne, tu l'auras pas son examen. J'ai eu mon examen. Bon, j'ai pas été réclamé la bouteille de champagne. Je me suis dit juste le fait qu'elle a dû voir mon nom admis. Elle a dû faire des cauchemars pendant 2 mois. Mais vous comprenez? C'est des moments où on voit rien de bon en toi. Je me souviens, j'étais tout jeune chrétien, je discute avec un chrétien et puis voilà, je trouvais quelqu'un d'intéressant, j'avais envie d'apprendre de lui, je commence à parler avec lui et au bout de 3-4 secondes, il levait déjà la tête par-dessus mon épaule pour voir s'il y avait des gens plus intéressants que moi dans le coin. Comprenez-vous ? Ça vous est déjà arrivé ça que des gens regardent par-dessus votre épaule ? C'est tellement désagréable. C'est tellement, t'as l'impression que t'es rien, quoi. Ok, très bien. Puis tu continues de parler, puis c'est même pas, il fait gaffe à toi, et puis il part. Ok, très bien. Ça s'appelle se prendre un vent, mais monumental. Et donc, tu as cette impression-là. J'aimerais te dire que si ton prof, peut-être tes parents, comme Caïn et Abel, que Ève n'a rien vu de bon dans son fils Abel, même peut-être si tes parents, tes amis d'école, ta famille de manière générale, je ne sais pas, j'aimerais te dire ceci, même si personne ne voit rien de bon en toi, si Dieu t'a choisi et si tu lui fais confiance, des choses exceptionnelles vont naître de ta vie. Parce que si pour les hommes tu n'es que de la vapeur, pour Dieu tu es un instrument de choix puissant et utile pour sa gloire. Amen. Comprenez ceci, le choix des hommes n'est pas forcément le choix de Dieu. Son opinion n'est pas conditionnée à ce que les gens croient de vous, absolument pas. Ce matin, je m'adresse à tous les Abels qui sont dans ce lieu, à tous ceux qu'on a méprisés, à tous ceux par qui on a regardé au-dessus de votre épaule. J'aimerais vous dire, Dieu ne regarde pas ces choses-là et il est capable de donner un sens à votre vie, afin que votre vie soit fructueuse, qu'elle soit bonne et qu'elle soit utile pour la gloire de Dieu. Et même ceux qui ne croyaient pas en vous, le temps va passer et ils vont être obligés de reconnaître ce que Dieu fait dans votre vie. Comprenez-vous ? Il y a quelques semaines en arrière, j'ai eu un appel d'un pasteur qui autrefois était un pasteur stagiaire dans l'église où je me suis converti. Et c'était incroyable, il revenait de l'église de Rive-de-Gier, de là où je viens. C'est une ville entre Saint-Étienne et Lyon. Et le pasteur de cette église actuellement, c'est mon frère. Et en l'espace d'un an, il a pris l'église l'année passée. Et juste un an plus tard, l'église est passée de 80, ils sont 160, 170 aujourd'hui. L'église a doublé, les offrandes ont doublé, la ferveur des gens, les bénévoles, tout a doublé en l'espace d'une année. Il y a toute une dynamique. Et il revenait d'une mission là-bas. Et il me téléphone, il dit, ouais, c'est juste incroyable. Il dit, je suis tellement béni de voir ce que Dieu fait à Rive-de-Gier, de voir ce que Dieu fait à Bordeaux, de voir comment Dieu a pu vous utiliser, de voir ce que Dieu est capable de faire. Et il me dit, tu sais, puis il me l'a dit vraiment de manière humble, c'était pas du tout absolument méprisant. Il me dit, tu sais, quand toi et ton frère, vous êtes convertis, on s'est convertis à 3 mois d'écart. Il dit, quand vous êtes convertis, franchement, j'aurais pas parié grand chose sur vous. Il y avait un autre couple de frères qui était là. J'irai pas les noms, bien sûr. Il y avait un autre couple de frères. Pour moi, c'était eux, quoi. Et je me souviens, ils s'investissaient investissaient à fond en eux et ils faisaient pas trop attention à nous. Je me souviens, on était un peu frustrés et ils disaient, c'était eux en fait. Je voyais que pour moi c'était, et puis Dieu les a bénis hein, qu'on s'entende bien. Mais c'était juste ça. J'étais incapable. Vraiment, j'ai pas vu ce que Dieu allait faire avec toi et ton frère. Et il y a cette réalité parfois, les hommes ne voient rien, mais ce que les hommes ne voient pas, Dieu lui est capable de le voir. Et les années passent et la grâce de Dieu s'est manifestée. Et les gens, même s'ils vous prenaient pour des Abel, pour de la vapeur, pour des gens inutiles avec de vains espoirs, sont obligés de reconnaître que la grâce, la bonté et la magnificence de Dieu s'est accomplie dans notre vie. Comprenez-vous? Alors, qui que vous soyez dans ce lieu, quand Dieu te choisit, et je vais parler pourquoi Dieu choisit. Quand Dieu te choisit, il y a cette réalité que tu peux faire une différence incroyable dans la vie des gens qui sont autour de toi et ta propre vie, vivre des choses magnifiques. C'est pourquoi, deuxièmement, au-delà des choix des hommes, Dieu regarde à notre cœur. Au-delà des parents, il y a une histoire qui va prendre place entre Caïn et Abel. Une histoire, le premier crime de l'humanité. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Même les mots justes en hébreu, c'est « Dieu honora l'offrande de Abel et il méprisa l'offrande de Caïn ». Lorsque j'étais enfant, je comprenais pas cette histoire. Je la trouvais injuste. Je trouvais cette histoire totalement injuste. Je me disais, mais Dieu, c'est pas correct quand même ce que t'as fait. Abel, c'est ton chouchou. T'as aimé son offrande et t'as pas aimé l'offrande de l'autre. Pourtant, les deux t'ont fait l'offrande du fruit de leur travail. Pourquoi t'aimes un et t'aimes pas l'autre? Pourquoi tu honores l'un et tu méprises l'autre? Et je ne comprenais pas ça. Et je me souviens, j'étais voir un ancien et je discutais avec lui. Et cet ancien me dit, écoute, tu sais, en fait, ça vient que Abel a fait une offrande, c'est un sacrifice. Il a fait un sacrifice, c'est juste des fruits. Il a fait un sacrifice, il y a eu du sang qui a été versé. C'est pour ça, parce que tu comprends, Jésus, il est mort sur la croix, le sang, etc. Tout ça, ça fait appel à ça. Et c'est pour ça que il a préféré cette offrande-là. Et sur le moment, je suis là, je fais le gars qui, ça me convient comme réponse, mais au fond de moi, ça me convenait pas. Je dis, ben non, quand même, ils ont apporté ce qu'ils avaient. Et en fait, je ne comprenais pas jusqu'au jour où j'ai vraiment étudié le passage. C'est tellement clair et c'est tellement évident de pourquoi Dieu a honoré et pas honoré l'autre. C'est que lorsque Abel a fait une offrande, c'est pas une histoire de animaux ou de fruits et légumes, hein. Dans le temple, lors du sabbat, on offrait les deux d'ailleurs, hein. C'est tout simplement, écoutez bien, c'est que simplement quand Abel a fait son offrande, Abel a honoré Dieu dans son offrande. Ça veut dire que la Bible nous dit que c'est par la foi que Abel, Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que Abel a fait son offrande. Il a pris les prémices, c'est-à-dire il a pris le début, les premiers-nés, ceux qui sont nés en premier, et il savait pas si derrière allait en avoir d'autres qui allaient naître, mais il a pris les prémices, il a pris les premiers-nés, et c'est pas tout. Une fois après les avoir pris, il les a sélectionnés pour choisir les meilleurs. C'est-à-dire non seulement il a pris les prémices, mais dans les prémices, il a pris le top du top. En d'autres mots, il a donné la crème, il a donné le haut du panier, il a donné la quintessence de ce qu'il pouvait faire pour honorer Dieu. De l'autre côté, Caïn, l'artiste, le gars incroyable, etc., etc., Caïn, lui, va faire une offrande, c'est comme du tout venant. Ça veut dire, c'est ce que j'ai sous la main. Qu'est-ce que j'ai? De pommes, trois carottes, deux poireaux. Tiens, Seigneur, ça te fera plaisir. Vous comprenez? Bah, quand même, je fais une offrande, c'est quand même top, c'est quand même, j'honore Dieu. Sauf que pour Dieu, l'honorer, c'est pas ça. Pour Dieu, c'est qui honore Dieu? C'est ceux qui donnent leur meilleur, qui donnent l'excellence pour Dieu. Je suis pas en train de parler de professionnistes, je suis pas en train de parler de gros chèques ou de gros comptes en banque ou de services qui prennent 45 heures par semaine. C'est pas ça que je suis en train de parler. C'est ceux qui donnent leur meilleur. Ce que je fais, je le donne de mon meilleur. J'ai deux talents, je vais lui donner deux talents. J'en ai cinq, j'en donne cinq. Mais je donne mon meilleur à Dieu parce que Dieu mérite le meilleur. Et quand nous honorons Dieu, Dieu nous honore. Parce que, comprenez ceci, le choix de Dieu est conditionné à l'honneur que nous pouvons avoir pour lui. Je vais y revenir dans quelques instants vraiment pour faire comprendre cette réalité. Pour l'attitude d'Abel est celle que vous devez imiter, à savoir offrir le fleuron, le plus beau à Dieu. Le Seigneur mérite la quintessence de votre vie. Beaucoup trop d'enfants de Dieu se contentent de donner du reste quand le Seigneur attend l'excellence. Dans notre service, notre travail, notre générosité, notre famille, nous sommes appelés à donner le meilleur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Malachi chapitre 1 verset 6, la Bible nous dit que Dieu va reprendre le peuple. Pourtant, ils avaient fait une offrande et c'était des animaux et le sang était versé. Donc comme quoi c'est pas une histoire d'animaux de sacrifice et de sang. La Bible nous dit Malachi chapitre 1 verset 6 pour regarder ça tranquillement chez vous. Dieu va s'insurger. Il va dire à son peuple, il va dire où est l'honneur qui m'est dû? Où est le respect qui m'est dû? Parce que, pourquoi il dit ça? Parce que les gens apportaient à Dieu des bêtes infirmes et aveugles. Il dit, où est l'honneur qui m'est dû? Lorsque vous m'apportez des offrandes qui sont avec des bêtes aveugles, lorsqu'ils sont avec des bêtes infirmes, apportez ça plutôt à votre gouverneur et vous allez voir s'il va vous faire bon accueil. Ce qui choque Dieu, c'est lorsqu'on ne l'honore pas. Mais lorsqu'on honore Dieu, nous devenons le choix de Dieu. Certains vont dire, oui, mais Ésaü et Jacob, ça avait été le choix de Dieu, ils n'étaient pas nés. Dieu est omniscient, il savait ce qu'il allait avoir par la suite. Il savait que Ésaü allait mépriser le droit d'aînesse. Comprenez-vous? Et le choix de Dieu est conditionné avec des gens qui veulent l'honorer. Et là, il y a un Caïn qui déshonore Dieu. Il donne ce qu'il a sous la main, il donne du reste, il a aucune excellence, il ne veut pas donner son meilleur. Alors qu'il y a un Abel qui donne les prémices, et même dans les prémices, il est en train de faire un tri pour donner son meilleur. C'est pourquoi je finirai troisièmement et dernièrement. Il y a un appel à réaliser que Dieu désire nous considérer. Comprenez ceci. L'amour de Dieu est le même pour tout le monde. Est-ce que vous êtes convaincus de ça? Moi qui vous parle ce matin, j'ai beau être pasteur de l'église, Dieu m'aime pas plus que vous. Et celui qui est dehors, qui ne connaît pas Dieu, et qui peut-être cette nuit a vécu sa vie comme un patachon qui a fait les 400 coups, j'aimerais vous dire, Dieu l'aime autant que vous que moi. La Bible nous dit que Jésus est mort sur le bois de la croix afin que quiconque soit sauvé. Dieu nous aime tous d'un amour équivalent. Mais l'honneur de Dieu est différent. Regardez ce que la Bible dit. J'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise, ceux qui me méprisent seront méprisés. Est-ce que vous avez remarqué que si Dieu nous aime tous de la même manière, si Dieu aime tous les personnages que nous lisons dans la Bible de la même manière, est-ce que vous avez remarqué que c'est pas tout le monde qui appelait l'ami de Dieu? Abraham était l'ami de Dieu. Est-ce que Lot était l'ami de Dieu? Non. Pourtant, Dieu les aimait de la même manière. Mais un était l'ami de Dieu et pas l'autre était l'ami de Dieu. La Bible nous dit que Jabez était plus considéré que ses frères. Pourquoi Dieu considérait plus Jabez que ses frères? David avait une considération de la part de Dieu. Et qu'on s'entende bien, les trois que je viens de vous parler n'étaient pas parfaits. Même Jacob n'était pas parfait. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils avaient la considération de Dieu. Pourquoi ils avaient la considération de Dieu? Parce que ils bâtissaient et ils désiraient donner leur meilleur à Dieu. Comprenez ceci, Dieu nous aime tous de la même manière, mais il ne nous considère pas de la même manière. Dieu nous aime tous pareil. Qu'on s'entende bien, ne partez pas de ce lieu en disant « Ouais, le pasteur, il a dit, il y avait des chouchous. » Puis il y en a, il les aime plus que d'autres. Non. Dieu a zéro chouchou. Jésus est mort sur la croix pour tout le monde, pour chaque personne dans ce lieu, et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, et pour les athées, et pour les bouddhistes et les musulmans. Dieu nous aime tous de la même manière, mais sa considération va pour ceux qui l'honorent. Est-ce que vous comprenez la différence? Sa considération va pour ceux qui l'honorent. Jabez était plus considéré que ses frères. Et il y a un appel à honorer Dieu. Et quand j'honore Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu m'honore. J'honorerai ceux qui m'honorent. Et je mépriserai ceux qui me méprisent. Il y a un appel où Dieu désire nous honorer. Il y a un appel à réaliser que c'est ça, la considération. On aime tous pareil. Et imaginez avec moi un instant. On est dans un grand rassemblement. Ok, là, on est déjà plusieurs centaines, mais imaginez, vous êtes un rassemblement, 3, 4, 5, 10 000 personnes, et que vous marchez dans la foule. Vous descendez, vous marchez dans la foule. Est-ce que vous allez vous arrêter à chaque fois que vous croisez quelqu'un? Oh, je suis tellement heureux de te voir. Même si les gens, la première fois que vous les voyez, vous les prenez dans leurs bras. Je t'aime, c'est tellement content. On va vous prendre pour un dingue, hein, si vous faites ça en plus. Mais vous comprenez que vous le faites pas. Par contre, si au fur et à mesure que vous redescendez l'allée, vous voyez quelqu'un avec qui vous avez bâti des choses, des gens avec qui vous avez bâti une amitié, des gens avec qui vous avez fait des choses incroyables, qu'est-ce qui va se passer? Alors que vous aimez tout le monde, hein? Vous aimez tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Dès que vous allez croiser quelqu'un avec qui vous avez bâti quelque chose, avec qui vous avez eu une intimité, vous allez vous arrêter, vous allez la prendre dans vos bras et vous allez prendre un moment de partage et d'échange. Comprenez-vous? Vous aimez tout le monde de la même manière, mais votre considération va pour ceux avec qui vous avez bâti quelque chose. C'est exactement pareil pour Dieu. Il nous aime tous de la même manière, mais sa considération va pour ceux qui l'honorent, avec ceux avec qui il a bâti quelque chose. Alors j'espère que vous êtes avec moi, nous voulons honorer Dieu. Et nous voulons bâtir une intimité. Nous voulons grandir avec Dieu afin que le nom de Dieu soit glorifié. L'amour de Dieu est identique, mais sa considération est pour ceux qui l'honorent. Amen. Caïn a eu l'occasion de changer. Peut-être si aujourd'hui vous n'honorez pas Dieu, même si vous aimez Dieu, même si vous êtes chrétien, ou si vous ne connaissez pas Dieu, la Bible nous montre qu'on peut changer. Vous savez, quand Caïn a eu ce mauvais sentiment parce qu'il n'a pas été honoré par Dieu, c'était la conséquence de lui. Vous imaginez ce gars qu'on l'avait mis sur un piédestal, lui, l'artiste, le créateur, etc. Et puis il y avait le Abel, l'absurde, l'inutile. Puis d'un seul coup, Dieu dit, ben non, moi je préfère lui, là, je préfère ce qu'il a fait. Vous comprenez que Caïn a eu un ressentiment terrible dans son cœur. Mais Dieu est venu et il lui a donné l'opportunité de changer. Malheureusement, et j'espère que ce n'est pas le choix que nous ferons, Caïn n'a pas écouté ce que Dieu lui a demandé. Il a persisté dans sa mauvaise voie et il va même tuer son frère. Quelle histoire terrible. Mais ça aurait été tellement beau. Imaginez que l'histoire finisse en disant que Caïn a réalisé son erreur, a réalisé combien il était orgueilleux, qu'il avait besoin de s'humilier, puis de prendre son petit frère comme exemple. Imaginez, elle aurait été belle cette histoire. Mais la Bible nous dit que Caïn est demeuré dans l'état qu'il était. Et il a été jusqu'à tuer son frère. Et la vie de Caïn a été une vie de malédiction. J'aimerais vous encourager et vous inviter ce matin. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Jésus est mort sur le bois de la croix afin que nos péchés soient pardonnés, afin qu'on ait une espérance, afin que nous puissions avoir une vie belle et utile pour la gloire de Dieu. J'honorerai ceux qui m'honorent. Le choix de Dieu se porte, sa considération se porte sur ceux qui l'honorent. Il y a quelque temps, j'ai vu un documentaire. J'ai vraiment trouvé ça beau. Après, j'ai même été voir le film. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, Les Chariots de Feu. Et c'est une histoire vraie qui nous parle d'un coureur du 100 mètres, Eric Liddell, en 1924, aux Jeux Olympiques de Paris. En 1924, il y avait ce jeune Anglais à qui la médaille d'or était promise. C'était le Usain Bolt de l'époque. C'était celui qui courait le plus vite au monde. Et c'était un fervent chrétien. Et là, lorsqu'il arrive à Paris, il commence à faire les éliminatoires, il commence à courir, et puis forcément, à chaque fois, il gagnait. Et là, le jour de la finale tombe, il ne le savait pas à l'avance, le jour de la finale tombe, c'est un dimanche matin. Et lui qui était un fervent croyant, il ratait jamais une réunion le dimanche matin. Et il fallait toujours qu'il soit dans la maison de Dieu pour louer et adorer Dieu. Et lorsque Eric Liddell apprend que la finale du 100 mètres avec la médaille d'or au bout qui lui était promise, lui, le Usain Bolt de l'époque, il regarde, il réfléchit, il se met à prier et il dit, Seigneur, je ne ferai pas cette finale. Parce que moi, dimanche matin, il est hors de question que je sois dans un stade où les gens vont m'acclamer, alors au lieu d'être dans une église pour t'acclamer et t'adorer toi. Alors, Eric Liddell a refusé. Vous imaginez l'Angleterre, les journaux, les titres, les médias, c'était l'ébullition. Le gars, imaginez un instant, le gars il refuse de faire la finale parce qu'il doit aller à l'église. Mais imaginez ça un instant, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et il a refusé, il a dit non, je vais pas, je vais le dimanche matin, je vais louer, je vais adorer Dieu dans une église à Paris, dans une église presbytérienne, protestante à Paris. Et là, il demande aux organisateurs, est-ce que c'est possible quand même que je m'inscrive, c'est pas du tout sa discipline, mais est-ce que c'est possible que je m'inscrive aux 400 mètres? Et là, sa fédération, l'Angleterre, etc., oui, tu peux t'inscrire, le CIO, tu peux t'inscrire. Et il s'inscrit, tout le monde est OK. Et le dimanche matin, plutôt que de faire la finale et de gagner la médaille d'or, lui, il est dans l'église, en train de louer Dieu. C'est même lui qui a prêché ce matin-là. Par la suite, c'est devenu un pasteur après sa carrière. Et il va commencer le lundi à faire les éliminatoires du 400 mètres. Et le jour J, il arrive en finale du 400 mètres. C'est pas sa discipline. Et là, juste avant de prendre le départ, il y a un ami, un athlète américain qui vient le voir et qui lui donne un papier. Et il ouvre ce papier et dans le papier, sur le papier, est écrit le verset qu'on a lu ensemble tout à l'heure. J'honorerai ceux qui m'honorent. Il a pris son petit bout de papier, il s'est mis dans le starting block et 1, 2, 3, poum, partez. Et il a couru tout le long avec le petit bout de papier, j'honorerai ceux qui m'honorent. Et vous savez ce qui s'est passé? À la fin, il a remporté la médaille d'or. Je ne suis pas en train de dire que faut pas travailler le dimanche matin, que faut pas faire ceci. C'est pas ça mon point. Mais pour Eric Liddell, lui, c'était ça. Honorer Dieu pour moi, c'est ça. Le sport ne prendra pas, une médaille d'or ne prendra pas la place de Dieu dans mon cœur. c'est d'abord Dieu que je sers. Et parce qu'il a honoré Dieu, Dieu l'a honoré. Et ensuite, c'est devenu un prédicateur de l'évangile juste incroyable. Alors, j'espère que vous êtes avec moi. Tous ceux, parce que nous avons été choisis, prédestinés par Dieu, nous allons honorer Dieu afin que Dieu nous honore, afin d'avoir un impact pour la gloire de son nom sur cette terre. Et tous ceux qui le croient disent Amen et Amen et applaudissent et acclament le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever ?
Ce message a été enregistré à l'église Momentum de Bordeaux. Pour le réécouter, rendez-vous sur eglisemomentum.com.
Il est 5h20, Phare FM avec vous, la radio autrement, dans la nuit autrement. Je vous souhaite encore un bon réveil et une excellente journée ce jeudi 31 juillet. J'espère que vous allez bien. On poursuit notre programme en musique. Dara McLean, What Love Looks Like.
Wake up, see it everywhere I look. Never imagined life could be this good. When you found me, it stopped me in my tracks. My world spins right at last. That's what love looks like. Words fail to say just what love looks like. When you give your heart away, it takes you in, holds you close, never lets you go. So picture all the best things in life, that's what love looks like. Dernière fleur, l'eau a coulé, les larmes meurent.
une autre histoire, à nos meilleurs, s'abandonner, faire fuir nos peurs, que nos mémoires effacent ces heures, passer à torturer nos cœurs, une dernière danse pour deux âmes sœurs. Je veux m'envoler, graver ton nom sur la tour Eiffel, chanter du matin au soir pour t'aimer, braver les vents, les mains.
Chanter du matin au soir pour t'aimer, braver les vents, les marées, les tempêtes. S'il le fallait, je veux m'envoler.
Que le ciel soit sombre et c'est nous.
Jacques et Carla, m'envoler sur Phare FM. Bonjour et bienvenue, c'est toujours la radio Autrement avec vous. Retrouvez Homme et Femme, mode d'emploi, votre prochain rendez-vous. Mais tout de suite, Benson Boone et la chanson Mama Song.
Mama, I'm missing home. California's getting colder and colder and colder. I miss you. And mama, I'm getting old. Does that mean you're getting older and older and older? I miss you. Mama, don't you know there's nothing to be sorry about? I'm so proud of all you've done. Take me down your old street. Tell me your memories of when you were young and where you fell in love. Drive me through the country. Tell me your story. And you can play all of your favorite songs. 'Cause I'm gonna need this when I'm holding pictures of you. It's getting hard. I've started looking like my father, and it makes me cry a little bit, 'cause he really should have made it big. 'Cause damn, he's good at everything, and everything I am is because of you. I'm a man because of you. Take me down your own street. Tell me your drive me through the country. Tell me your story.
femmes, mode d'emploi avec Eric et Rachel Dufour, en partenariat avec The Watchers.
Nous parlons aujourd'hui des priorités.
Alors, on vit sur Terre, on a des journées de 24 heures, comme tu le disais, et on sait très bien qu'on va pas passer des heures et des heures par jour dans la présence de Dieu en ne faisant rien d'autre. On a un agenda, nous avons des familles, on a un job. Donc, ce que l'on veut vraiment donner, c'est quelque chose de concret, de pratique qui puisse se vivre. Je crois que c'est vraiment le désir de Dieu que l'on vive une vie qui soit épanouissante dans les journées de 24 heures que nous avons. Dans l'ordre divin, en fait, alors je vais vous le décrire, puis après peut-être le détailler, on va le détailler ensemble. C'est d'abord eh bien, le sommet, c'est mon temps avec Dieu. Je suis fils ou fille de Dieu, et dans cette position, c'est mon identité qui s'y trouve. J'ai besoin de passer du temps de qualité qui me renforce dans cette identité, aussi du temps dans la présence de mon Seigneur.
Ce sera ta source.
C'est la source de tout, en fait. Tu as raison, Zoé. Oui. Ensuite, c'est si je ne suis pas marié, ben je prends soin de moi, puisque ça vient en second. Mais si nous sommes mariés, ben c'est notre couple. Il faut que je prenne soin de moi et que je prenne soin de mon couple, parce que avec mon épouse, nous faisons un, comme on l'a vu dans des sessions précédentes. Nous faisons un, et donc ben, j'ai besoin de prendre du temps de qualité avec celle ou celui qui est mon partenaire dans la vie, avec qui je partage tout. Puis si nous avons le bonheur d'avoir des enfants, eh bien en fait. Ils viennent en troisième, ils ont besoin de nous, ils dépendent de nous pendant un grand nombre d'années, ils sont pas là comme un faire-valoir, ils sont vraiment là pour que nous nous occupions d'eux, et notre relation avec eux est essentielle. Mmh. Et après seulement va venir bien mon service pour Dieu, et puis diverses choses, mes amis, la famille étendue, le travail, etc. Mais ça, c'est la pyramide en quelque sorte, et le sens dans lequel elle doit être établie. En fait, si on a un service qui prend du temps pour le Dieu dans l'église, etc. Le danger, c'est de ne plus lire sa Bible en dehors d'avoir quelque chose à préparer pour l'église, ou bien de ne plus prier en dehors de prier pour quelque chose qui se passe à l'église ou autre. Mm-hmm. Ce qui sont pas des mauvaises choses du tout. Sûr. Mais j'ai besoin que mon identité soit établie indépendamment de tout service. Mm-hmm. C'est vraiment en tant qu'enfant de Dieu que je dois établir cette identité. Et puis après, dans le respect de l'ordre que l'on a établi.
En fait, pour avoir un visuel, juste pour bien prendre conscience de cela, on a bien utilisé cette image de la fontaine à champagne. Mmh. Vous en avez, je ne sais pas si vous en avez vu pour les mariages.
Ouais, ouais,
hein.
Ouais.
Ils font des piles, ça peut aller jusqu'à des centaines de verres. Mmh. Et ça commence par un seul verre en haut, une seule coupe. Mmh. La seule coupe. Et dont le rôle du serveur est de remplir cette coupe pour qu'elle déborde.
Et elle descend.
C'est ça notre relation avec Dieu. Mmh. Et puis ensuite, le fait que ça déborde va remplir le deuxième rang, mari et femme, qui va remplir le troisième rang, les enfants, qui va remplir le quatrième, le travail, le service dans l'église,
super
etc.
Image.
Puis la famille étendue, les amis, etc. Et ça va se faire naturellement, logiquement. Mais on garde Dieu au centre. Quand on mélange, comme tu dis, avec le service pour Dieu, c'est comme si on essayait de, à l'église, c'est comme si on essayait de remplir le quatrième rang, en fait. Ouais. En courant autour, en essayant d'atteindre l'intérieur, c'est impossible.
On est épuisé.
Compliqué. Ouais. Épuisé, et le reste, ça sèche. Dieu veut vraiment être à la première place, en fait.
C'était Hommes et Femmes, mode d'emploi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ericetrachel.com.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share. One.
Sur Phare FM. L'heure pour moi de vous dire au revoir. Je vous retrouve cette nuit à minuit. Et là, du coup, c'est Bonjour chez vous que vous allez retrouver dans quelques minutes après notre prochain titre et à partir de 5h30, Soane dans Cocorico. Je vous laisse avec Louane et la chanson Monde et je vous dis à très très bientôt. Merci de rester avec Phare FM.
Je crois que j'apprends toute seule à faire un peu comme toi. Je te trouve en moi. Je dois vivre sans toi. Est-ce que tu regardes toutes mes victoires, toutes mes défaites quand j'ai peur le soir? Est-ce que tu vois comme elle grandit? Est-ce que tu regardes? Et je me demande s'il existe un monde où mon cœur s'apaise, où tout s'arrête. Et je me demande s'il existe un monde où la colère passe, où tout s'efface. Et je me demande s'il existe un monde, s'il existe un monde, un monde. Je sais plus quoi faire. Faut que je me réveille. Je fais des mauvais rêves. De toi, d'elle sans toi. Je la regarde. Est-ce que tu me regardais comme ça? Est-ce que tu regardes toutes ces victoires, toutes ces défaites quand je lui parle le soir? Est-ce que tu regardes? Et je me demande s'il existe un monde où mon cœur s'apaise, où tout s'arrête. Et je me demande s'il existe un monde où la colère passe, où tout s'efface. Et je me demande s'il existe un monde, s'il existe un monde. Où tout s'arrête. Et je me